Bonjour à vous tous, c'est une joie de vous rencontrer, de vous retrouver. Mais c'est toujours une joie de me trouver dans cette petite église, comme je le dis souvent, qu'on aime tant. Pas les bâtiments que nous aimons, bien que. Mais vous tous, chers amis, qui êtes de vrais amis, de vrais frères et sœurs, et quel bonheur d'être là. Quelle responsabilité aussi. Je ne sais pas si vous pouviez vous mettre à ma place, mais on tremble lorsqu'il s'agit de présenter la parole de Dieu. C'est lui le grand, le maître absolu, le souverain de l'univers. Nous allons voir quelques aspects de cette grandeur de notre Dieu, mais auparavant, commencer par le commencement, c'est-à-dire le monsieur Angèle Flèche Jean-Luc, pour son introduction. Il a déjà dit beaucoup pour encourager et soutenir et fortifier nos âmes et les diriger vers, non pas un phare, mais une puissance qui nous a animés dès lors que nous avons demandé au Seigneur, « Viens habiter ma vie, Seigneur, dirige-la à ton honneur. » Merci Jean-Luc, merci Seigneur pour les psaumes, merci pour ta parole. Je souhaiterais que nous chantions ce beau chant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. Vous montrer quelques aspects de la grandeur de Dieu, je voudrais m'incliner devant lui. Seigneur notre Dieu, nous sommes là devant toi. Ouvre nos cœurs, s'il te plaît, pour saisir ce que tu as à nous dire au travers de ta parole. Ouvre nos esprits, notre Dieu, s'il te plaît, pour la comprendre, pour la saisir. Ouvre notre intelligence et notre souhait, notre volonté pour la réaliser, pour l'accomplir comme tu nous demandes de le faire. Tout cela parce que tu es digne de gloire et d'honneur et de louange et d'adoration, ce que nous voulons faire, Seigneur, en te le disant par quelques mots que nous bégayons, mais que nous exprimons de tout notre cœur, vraiment, parce que nous réalisons quelque chose de l'amour invariable, de l'amour si profond d'un Dieu qui m'a aimé et dont Jésus, son Fils unique, s'est livré pour moi. Que ton nom soit béni, Seigneur, à la gloire du nom de Jésus. Amen. Le sujet que nous souhaiterions traiter, c'est de cette loi du royaume des cieux. Mais auparavant, vous allez comprendre pourquoi j'ai proposé ce chant. Voyons quelques aspects de la grandeur de Dieu en examinant notre belle planète bleue et quelques-uns des satellites. Et voici avec d'autres planètes, Vénus, Mars, Mercure et Pluton, la suivante vous donne une idée de cette Terre Elle a diminué de dimension par rapport à Jupiter et à Saturne. Vous voyez un petit peu le soleil. Notre soleil. Je voudrais dire quelques mots à propos de ce soleil. Il nous fait tant de bien. Mais quelquefois, aussi, dans les intempéries que nous avons vécues, les canicules, nous souhaiterions un petit peu plus de fraîcheur, un petit peu moins de température. Je voudrais vous dire que dans les années 50-60, les scientifiques disaient que la durée de demi-vie, parce qu'il s'agit de réactions nucléaires, en ce sens que c'est l'hydrogène liquide qui se transforme en hélium, la durée de vie était estimée à 5 milliards d'années. Puis dans les années 2000, on a restreint cette dimension-là. On a proposé 100 000 ans. Et puis récemment, quelques scientifiques ont osé dire que non, c'est de l'ordre de 1000 à 1500 ans. Tiens, c'est une donnée qui figure dans la Bible. Pourquoi ont-ils dit ça? Peut-être parce que il y a une estimation scientifique qui dit que 4,3 millions de tonnes d'hydrogène se transforment en hélium chaque seconde. Vous entendez bien? Chaque seconde, 4,26 millions de tonnes d'hydrogène se transforment en hélium, qui est stable. Est-ce que c'est à partir de ça qu'ils se sont dit « ça dure encore 1000 ou 1500 ans ?» Tout à l'heure, Jean-Luc a dit que le Seigneur est proche. Tellement d'éléments nous annoncent que le Seigneur vient bientôt. Voyez un petit peu par rapport à Arcturus, le soleil à l'extrême gauche. Cette planète que vous y avez vue juste avant là, avait la dimension d'Arcturus et maintenant elle devient presque un point à peine perceptible. Alors, les scientifiques se sont aperçus que si un observateur se trouvait à proximité des anneaux de Saturne, je pense que chacun connaît, nous n'irons pas plus loin dans l'astronomie, mais juste pour vous dire que dans ce petit point-là, qui est au bout de la flèche, se trouve notre Terre. Un point sur un écran de télévision ou sur un écran d'ordinateur, ça pourrait se résumer à un pixel. Et c'est dans ce pixel-là que nous tous, nous nous trouvons. Toutes nos guerres, tous nos problèmes, toute notre grandeur et notre misère, toute notre technologie, notre art, nos réussites, toutes nos civilisations, toute la faune et toute la flore, toutes les races, toutes les religions, tous les gouvernements, les pays, les États, tout notre amour et toute notre haine, se situe dans ce petit point-là. Pour à peu près 8 milliards, 7 à 8 milliards d'individus. Toutes ces choses, je vous les présente, mes chers amis, pour relativiser un petit peu ce que nous sommes par rapport à la grandeur de notre Dieu qui a fait ces mondes. Nous n'avons considéré que quelques étoiles de notre galaxie. Il y en a des centaines de milliers de galaxies. Au point où certains de nos contemporains disent il y a des orbitants ailleurs. C'est pas possible. Nous ne sommes pas les seuls dans l'univers. Pensez qu'ils ont raison? Est-ce que notre Seigneur aurait dû mourir aussi sur d'autres planètes pour donner la vie à ceux qui sont considérés comme des individus? Peut-être pas semblables à nous, peut-être différents, comme disent les scientifiques, certains évolutionnistes. J'ai voulu vous proposer toutes ces choses-là, mes chers amis, simplement pour nous situer par rapport à la grandeur de Dieu et voir notre petitesse. Ma petitesse par rapport à Dieu. Mon amour de Dieu par rapport à l'amour du Sauveur. que nous sommes amenés à considérer. Alors je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous dire que le Seigneur a présenté, en tout cas Matthieu dans son évangile, nous présente 6 discours du Seigneur. La plupart d'entre vous connaissent ces discours-là, en tout cas le premier, c'est le sermon sur la montagne avec les 9 bienheureux que vous connaissez. Nous en dirons quelques mots juste après. Bienheureux les pauvres en esprit, pas les pauvres d'esprit, pas les simples d'esprit, les pauvres en esprit, les personnes qui ne voient qu'une chose à la fois, simplement. Ils sont aimés de Dieu, comme nous le sommes tous, mes chers amis. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, c'est eux qui verront Dieu. Bienheureux êtes-vous quand on vous injuriera ou qu'on dira en mentant toute espèce de mal contre vous. Réjouissez-vous, parce qu'ils ont fait les mêmes choses aux prophètes qui vous ont précédé. Je ne cite que ces 3 exemples-là des 9 bienheureux, à vous de les découvrir, si vous voulez bien, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, 5. Au chapitre 6, nous trouvons différents enseignements, dont le Notre Père. C'est là qu'il se trouve, le Notre Père. Et aussi un certain nombre de réflexions que nous rapporte Matthieu. Par exemple, vous avez entendu dire que. Vous avez entendu dire que. Mais moi, je vous dis. Et au chapitre 7, pareil. Et il nous dira, ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Ne condamnez pas, afin que vous ne soyez pas condamnés. Il y a des richesses insoupçonnées dans la parole du Seigneur qui nous élèvent dans notre petitesse, chers amis, lorsque nous faisons référence à ce grand Dieu des cieux et de la terre qui est par Jésus devenu notre Père céleste. Quelle merveille! Quelle merveille nous pouvons découvrir! Ensuite, les 8 paraboles du chapitre 13 de Matthieu, qui est le 4e discours. Vous les connaissez, les 8 paraboles. Parabole du semeur, la parabole du semeur et de l'ivraie, etc. Je vous les laisse découvrir. Mes chers amis, si vous le souhaitez, enfin, cinquièmement, ce à quoi ce sujet que j'avais à cœur de vous présenter et qui sera les 7 lois du royaume des cieux. Et enfin, le chapitre 24, qui nous rend compte des temps de la fin. Ce fut le sujet du culte de la semaine dernière, sans se concerter. Notre frère Daniel a parlé du chapitre 24 du livre de Matthieu, concernant les temps de la fin. On appelle ça l'eschatologie, c'est-à-dire les temps de la fin. Savez-vous, dans les 7 lois, le point central de notre intervention, si vous voulez bien, dont le premier, c'est l'humilité. La première chose qu'il nous est donné de considérer et que Matthieu donne dans ses 7 lois, c'est l'humilité. Sans humilité, impossible de plaire à Dieu. L'exemple parfait, je dirais même davantage, le modèle d'humilité n'est-il pas notre Sauveur et Seigneur bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ? Et les conseils de notre Dieu dans sa parole constituent un potentiel de richesse insoupçonné et des conseils inouïs pour notre vie chrétienne. D'abord, l'humilité est la réponse que le Seigneur fait à Pierre qui lui demande, ou à ses disciples, quel est le plus grand dans le royaume des cieux. Et les disciples lui demandent pareil, posent la même question, quel est le plus grand? Le Seigneur ne répond pas, moi. Le Seigneur lui dit, quiconque s'abaissera comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Le verset 3 nous invite à réaliser ce verset à petit enfant. Et dans les 5 propositions, depuis l'humilité, nous avons vu une série de humilité, l'accueil, et puis il y aura le scandale, et ainsi de suite, jusqu'au pardon, qui est le 7e point. Dans les cinq premiers, le Seigneur prend en exemple un petit enfant. Un petit enfant. Et pour quelle raison le Seigneur fait ça? Si vous ne devenez comme les petits enfants, vous ne pouvez entrer dans le royaume des cieux. L'exemple suprême, le modèle suprême, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, nous venons de le dire. En Matthieu 11, 29, nous trouvons cette belle expression « Je suis doux, je suis débonnaire et humble de cœur », dit le Seigneur. En Acte 20, verset 19, l'apôtre nous invite à servir le Seigneur, servant le Seigneur en toute humilité. Bien d'autres passages parlent de l'humilité, notamment Colossiens 3, 12, Jacques 4, 6 et 1 Pierre 5, 5. Si vous voulez des références, je vous les communique. En second lieu, nous trouvons l'accueil. Quiconque reçoit un seul petit enfant, tel que celui-ci, parce que le Seigneur aimait prendre dans ses bras des petits enfants qu'on lui amenait. Ils criaient, ils étaient espiègles, et le Seigneur dit, laissez venir à moi des petits enfants. Des papiers et des mamies savent ce que ça représente un petit enfant. Même espiègles, qu'est-ce qu'on les aime, ces petits chéris? Qu'est-ce qu'on les apprécie dans leur innocence? Quelle merveille, quel cadeau de Dieu quand un enfant vient dans un foyer. Quiconque reçoit un seul petit enfant tel que celui-ci, le Seigneur dit, il me reçoit. Vous recevez un petit enfant, c'est comme si vous recevez le Seigneur. Il y a bien d'autres expressions, notamment dans Matthieu 25, où il a dit que si vous faites ces choses, si vous donnez à boire à quelqu'un qui a soif, si vous donnez à manger à quelqu'un qui a faim, c'est comme si vous le faisiez à moi-même. Vous connaissez bien ces choses. Bien sûr, aussi, aimer, c'est le prendre. Est-ce qu'on imagine un père, une mère, qui n'exercerait pas une certaine discipline à l'égard des enfants? On les aime quand même. On les aime comme ils sont. On les aime et on les dirige parce qu'il a été réservé aux parents de faire l'éducation de ses enfants. Hébreux 12, 5, mon fils ne méprise pas la discipline du Seigneur parce que le Seigneur aussi discipline. Et ne perds pas courage quand tu es repris par lui. Car celui que le Seigneur aime, celui que le Seigneur aime, il le discipline pour son profit. Dieu agit envers vous comme envers des fils. Car qui est le fils que le Père ne discipline pas? Fin de citation. Troisième, le scandale. Le verset 6 nous dit, mais celui qui est une occasion de chute pour un de ces petits qui croit en moi, il serait avantageux pour lui qu'on lui eût pendu au cou une meule de moulin et qu'on l'eût jeté, qu'on l'eût noyé dans les profondeurs de la mer. Faisons confiance à un Dieu juste. Il y a une justice humaine, sans aucun doute. Et nous avons des exemples sous les yeux ou dans la mémoire où on a fait du tort à semblable à des petits-enfants et ça continue parce que la violence fait partie de ce monde. Faisons confiance à notre Dieu qui jugera justement. Il connaît tous les dossiers et il est celui qui a prévu qu'un jugement apparaîtra un jour par l'homme qu'il a destiné à cela, nous dit Acte 17, en le ressuscitant d'entre les morts. Et vous avez compris que c'était le Seigneur lui-même qui se présentera comme juge. Aujourd'hui, il est le Sauveur. Aujourd'hui, il est le Seigneur. Mais il se présentera un jour pour juger en justice la terre habitée tout entière par l'homme du Dieu qu'il a destiné à cela, à savoir Jésus-Christ. Il a donné une preuve à tous en le ressuscitant d'entre les morts. Vous pouvez avoir cette référence dans Acte 17. Autre chose, Ecclésiaste 8, 11 nous dit ceci, parce que la sentence sur les mauvaises œuvres ne s'exécute pas immédiatement, le cœur des fils des hommes est plein d'envie de faire le mal. Il faut le savoir aussi, ça. Un autre verset. La suite de ce passage-là d'Ecclésiaste. Bien que le pécheur fasse 100 fois le mal et prolonge ses jours, je sais cependant que tout ira bien pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui craignent Dieu. Tout cela fait partie de l'enseignement dont nous avons besoin, chers amis, pour glorifier notre Seigneur chaque jour. En outre, en Hébreux 10, 31, le Seigneur déclare, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Nous craignons, et des personnes nous disent quelquefois, mais où est-ce que Dieu est? Est-ce que Dieu règne vraiment? Comment est-ce que ça se fait que Dieu laisse faire toutes ces choses-là? C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Dieu est patient envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Le volet suivant, c'est le respect mutuel. Gardez-vous de mépriser un de ces petits, encore une fois, oui, les petits-enfants. Le Seigneur fait toujours référence aux petits-enfants. Oui, donc, je vais me penser un peu plus tard concernant encore ces petits-enfants, car je vous dis que dans les cieux, leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Deux choses dans ce verset que j'aimerais souligner. D'abord, un ange gardien. Il a été question dans notre jeune âge que les petits avaient des anges gardiens, il y en a même d'autres qui bénéficient de ce fameux ange gardien. Eh bien, voilà la source. C'est dans ce verset de Matthieu 18 que nous le trouvons. Leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Vous ne croyez pas que le Seigneur est magnifique et grand de prendre soin même des petits-enfants? Une chose est certaine, c'est que le verset suivant nous dit que Jésus est venu sauver ce qui était perdu. Ce qui veut dire que tous ceux qui n'ont pas passé par l'âge de la connaissance du bien et du mal, ceux qui n'ont pas réalisé ce que c'est, la différence entre l'un et l'autre, ils sont sauvés. Le Seigneur les sauve. Le Seigneur est le sauveur de ces petits-enfants. Il n'y en a aucun qui ne soit pas dans le paradis de Dieu. Il n'y en a aucun petit-enfant qui ne sera dans la maison du Père et que nous reconnaîtrons très certainement. Deux choses importantes à souligner à partir de ce verset. Priorité perdue. Qu'en pensez-vous si un homme a 100 brebis et qu'une s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 sur les montagnes et s'en ira à la rencontre de celle qui s'est égarée, qui s'est perdue? Le Seigneur les aime. Même 1% de son troupeau qui se perd, une brebis sur 100, il l'aime. Et il part à sa recherche. Est-ce que cela sera trouvé? En tout cas, nous savons que si quelqu'un s'égare, le Seigneur part à sa recherche. Il nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous restions entre les mains d'un ennemi. Et le premier ennemi de l'homme, c'est lui-même. Il arrive que nous puissions nous égarer, mais le Seigneur nous ramène. Il nous ramènera. Le cinquièmement, c'était la priorité au perdu, car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Si la conscience d'un enfant de Dieu est mal à l'aise, le remords insupportable amènera à la confession et à l'abandon d'une situation qui était contraire à la volonté de Dieu. Observons ce qui nous est dit en Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache cette transgression ne prospérera point, mais celui qui ne confesse et qui ne abandonne trouvera miséricorde. Celui qui cache cette transgression ne prospérera point. Et nous avons conscience que nous avons mérité la sanction du Seigneur. N'allons pas plus loin. Confessons-lui, Seigneur, pardon. Deux choses. Pardon, Seigneur. Et vous savez, c'est la clé d'une retrouvaille, d'une précieuse relation, d'une précieuse alliance que nous avons perdue à cause d'une erreur, d'une faute, d'une transgression. Sixièmement, la loi de la réconciliation. « Seigneur, mon frère péchera-t-il, dit Pierre, cette fois, et lui pardonnerai-je. » Je ne te dis pas cette fois, mais 70 fois cette fois. 60 fois, 70 fois cette fois, 70 fois, en parlant belge, 70 fois cette fois. Le septième principe va encore plus loin, on le verra dans un instant. Si tu vois ton frère qui pêche, reprends-le entre toi et lui. C'est la liberté d'avertir notre frère. Reprends-le, si tu vois ton frère qui pêche, reprends-le entre lui et toi. On n'ose pas le faire parce qu'on craint de donner l'impression qu'on juge notre frère. Et c'est bien dommage. Parce que il y a une démarche pleine d'amour qui sous-tend cette démarche-là. Mettons-nous à genoux avant d'aller voir notre frère et de lui dire « Est-ce qu'il ne te semble pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, est-ce qu'il ne faudrait pas régler ça avec le Seigneur ?» Le psaume 141, au verset 5, nous dit « Que le juste me frappe, c'est une nuit excellente. C'est une faveur qu'il me reprenne. » C'est une huile excellente, ma tête ne le refusera pas, car ma prière sera encore là dans ces calamités. Citons simplement le cas d'Apollos. Apollos, dans le livre des Actes, il connaissait bien des choses. Il était, du reste, un grand prédicateur. Il annonçait la parole de Dieu. Mais il y a une chose qu'il ne connaissait pas. Il prêchait le baptême de la repentance, c'est-à-dire le baptême de Jean. Mais celui de Jésus ne connaissait pas alors deux personnes, Aquila et Priscilla. Aquilas et Priscilla, deux faibles personnes qui sont dans l'église où se trouvait Apollos, qui vont le trouver et le mettre sur le bon chemin, c'est-à-dire lui annoncer, lui, un grand orateur, Apollos, a accepté que un faible couple le reprenne dans la méconnaissance de la parole de Dieu, parce que c'était tout frais, c'était dans le livre des Actes au départ, et la repentance a été proposée à Pentecôte, comme vous le savez très bien, et Apollos ne savait pas. Et enfin, la loi du pardon. C'est l'exemple. C'est pourquoi le royaume des cieux a été fait semblable à un roi qui voulait faire ses comptes avec ses esclaves. On lui en amena un qui lui devait 10 000 talents. Je me suis permis de faire un petit calcul avec la valeur actuelle 0,67 cents d'un gramme d'argent. Ça représente quelques 10 millions de dollars, quelques 10 millions d'euros. Une somme impossible à épurer. Alors, qu'est-ce que fait le roi ? Pardonne-moi, Seigneur. Quitte-moi la dette. C'est impossible que je puisse te la payer. Alors, le roi, dans sa condescendance, vous lirez ce texte dans la fin du chapitre 18 du livre de Matthieu. Et celui qui devait 10 millions d'euros au roi, on lui a quitté la dette, le roi lui a quitté la dette dans sa mansuétude. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il rencontre, il sort libre de sa dette et il trouve un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Et lui dit en l'étranglant, « Paie si tu dois !» Et c'est revenu aux oreilles du roi qui a dit, « Ah, je t'ai quitté toute cette dette et toi, tu vas trouver ton compagnon. » Et tu l'étranges et tu lui demandes de te payer ce qu'il te doit, eh bien, tu iras en prison et tu régleras ta dette jusqu'à le dernier denier. Que retenir de tout ça, mes chers amis ? Peut-être vous souviendrez-vous du premier, l'humilité. C'est l'essentiel. Quelqu'un qui a une humilité, vous savez, le Seigneur élève ceux qui s'abaissent. Mais les orgueilleux, le Seigneur ne les aime pas. Le pardon, c'est quelque chose d'essentiel. Et la fin de ce texte que nous venons d'évoquer dans Matthieu 18, nous dit ceci, le Seigneur fera de même si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur chacun à votre frère. Le Seigneur vous demandera compte si vous ne pardonnez pas à chacun, à chaque frère, à chaque sœur, de tout votre cœur. Le Seigneur nous demande de pardonner. On ne parle plus guère au XXIe siècle de règles ou de devoirs. On parle de droits. Il n'y a plus que des droits. On a osé dire que les lois de Dieu sont inférieures aux lois des hommes. Les lois des hommes, les lois de la République sont supérieures aux lois de Dieu. Vous avez entendu dire ça, n'est-ce pas? Ce qui est important à retenir en tout cas, c'est que la chair, c'est-à-dire la nature humaine, ne se soumet pas à la volonté de Dieu, parce qu'elle ne le peut pas. Elle ne se soumet pas parce qu'elle ne le peut pas. Venons un instant sur les droits. Les droits des hommes, le droit de l'homme, le droit de la femme, le droit de l'enfant. Ils ont même la possibilité à 6 ans de choisir, écoutez bien, s'ils veulent être un garçon ou une fille. Il y a une éducation qui est proposée maintenant à ces jeunes de 6 ans, selon laquelle ils peuvent faire ce choix. Et un exemple récent en Allemagne est tel que des parents, un couple a refusé que les enfants assistent à ce genre d'enseignement dans l'école. Ils ont fait de la prison. C'est un exemple. Est-ce que ça ne risque pas de se généraliser? Si ça se passe en Allemagne, pourquoi pas en France? Pourquoi pas en Belgique? Pourquoi pas dans le monde entier? Vous voyez dans quel monde nous vivons? Ça vient du fait que ce verset est important et je voulais le mettre en évidence pour nous. Nous ne pouvons pas nous soumettre à la loi de Dieu. On ne le peut pas. Alors, une impasse? Ce fut l'erreur de nos premiers parents, une simple désobéissance. Ève, qui donne à Adam le fruit de la connaissance du bien et du mal. Vous connaissez la suite. Ils se sont cachés, ils ont eu peur. La honte et la peur. Voilà le résultat. Ils ne se sont même pas aperçus qu'ils étaient morts. C'était la sentence prononcée. Le jour, au jour tu feras cela, tu mourras certainement. Le Seigneur avait fait le cours biblique à Adam. Au jour où tu mangeras de ce fruit de l'arbre de la connaissance du mal, tu mourras. Ils ne se sont pas aperçus qu'ils étaient morts. Mais ils se sont aperçus qu'ils étaient nus. La honte et la peur. Ils se sont cousus des feuilles de vigne pour cacher leur honte. Et vous connaissez la suite, le Seigneur les a revêtus d'une peau d'animal et par conséquent, un être innocent, un être vivant innocent a dû être sacrifié pour couvrir le péché de nos premiers parents. Écouter la voix de l'ennemi, c'est mépriser le conseil de Dieu. Alors est-ce que c'est une impasse? Est-ce que tout est perdu? Non, mille fois non. Le psaume 121, verset 2 nous dit: mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, il y a moins que cela. Celui qui a fait les cieux et la terre est notre Sauveur. Il veut être notre Seigneur. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 3. Si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux ou de Dieu. Et au verset 12 du premier chapitre, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. à tous ceux qui l'ont reçu. Par conséquent, ouvrons notre cœur au Seigneur, la lumière y pénétrera. Seigneur, ouvre mon cœur, s'il te plaît. C'est toute la démarche que nous devons faire. Ouvrir notre cœur à la lumière de Dieu et il entre, parce que nous l'invitons à venir dans notre vie et transformer tout et à nous donner la vraie liberté et nous donner le pardon de nos péchés. Quelle chose merveilleuse le Seigneur a permis. Faire alliance avec le Seigneur, d'abord le recevoir comme sauveur, et puis alors, Seigneur, sois mon Seigneur, c'est-à-dire dirige ma vie. Seigneur, montre-moi et rappelle-moi tes principes et accorde-moi la grâce de les vivre vraiment à ton honneur. Parce que la volonté de Dieu a ses trois caractères, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. C'est ça la volonté de notre Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous accorde la grâce de retenir ces précieux enseignements qu'il nous a laissés pour le temps de son absence, parce qu'il nous forme, il nous modèle, il nous rend capable de rejoindre la beauté et la merveille de notre Seigneur Jésus-Christ, de ressembler, Seigneur, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Que le Seigneur veuille bénir sa parole. Amen.